Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La presse. Au programme, loi sur l'avortement. Une fausse bonne idée. L'intelligence artificielle va changer le travail. Et protéger les avocats. Bonne écoute.
Loi sur l'avortement, une fausse bonne idée. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 24 juin 2023 dans La Presse. La proposition était surprenante comme sortie de nulle part. Elle donnait l'impression que Martine Biron l'avait trouvée dans une boîte de Cracker Jack. Vraiment, il fallait sacraliser le droit à l'avortement au Québec? Le visser dans le mur pour éviter qu'il nous glisse entre les doigts? Souvenez-vous, c'était le 24 avril. La ministre responsable de la condition féminine estimait qu'il fallait réaffirmer le droit des Québécoises à se faire avorter. Elle projetait même de l'inscrire dans la Charte des droits et libertés de la personne. Pour mémoire, le 24 avril, c'était 5 jours après l'embarrassant revirement du gouvernement sur le troisième lien. La ministre Biron a eu beau jurer que son annonce n'était pas une tentative de diversion, ça en avait toutes les apparences. Parce que, non, il n'y avait pas péril en la demeure. La très grande majorité des Québécois s'entendent là-dessus. Les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Le débat est clos. Depuis 35 ans. La ministre donnait donc l'impression de s'attaquer à des moulins à vent. Elle faisait dans le marketing plus que dans l'action concrète. Remarquez, ça ne lui coûtait pas cher, personne n'est contre la tarte aux pommes. 2 mois plus tard, Martine Biron se rend compte que cette histoire risque malheureusement de lui coûter plus cher que prévu. Depuis quelque temps, la ministre sonde ses appuis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'en trouve pas beaucoup. Elle a plutôt réussi l'exploit de se mettre à dos le Barreau du Québec, la Ligue des droits et libertés et à peu près tous les groupes féministes que compte la province. Une loi sur l'avortement? Merci, mais non merci, Madame la ministre, ont écrit dans Le Devoir les représentants d'une 20aine d'organismes pour la défense des droits des femmes. Une loi sur l'avortement, préviennent-ils, serait terriblement contre-productive. Personne ne doute des bonnes intentions de Martine Biron. Mais légiférer sur l'avortement au Canada, c'est l'équivalent de nourrir des animaux sauvages en forêt. Une fausse bonne idée. On pense les aider, mais on risque de rompre le fragile équilibre de la nature. De la même façon, encadrer le droit à l'avortement dans l'espoir de le renforcer risque plutôt de l'affaiblir, explique Louise Langevin, professeure à la faculté de droit de l'Université Laval. Ouvrir ce débat, craint-elle, c'est ouvrir non pas la boîte de Cracker Jack, mais celle de Pandore. On ne sait pas ce que ça va donner. J'ai peur qu'on finisse avec moi. Parce que voilà le problème. Légiférer pour encadrer un droit, c'est aussi permettre d'en dresser les limites. Le débat risque de déraper en commission parlementaire. Des groupes anti-choix en profiteront pour se mobiliser et pour attaquer la validité constitutionnelle de la loi, ajoute Maître Langevin. Ça va se ramasser en Cour suprême. Elle prévient « Ne réveillons pas l'ours qui dort ». Il y a 1 an aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis provoquait un séisme politique en remettant en cause le droit fédéral des Américaines à avorter. L'onde de choc n'a pas fini de se faire sentir. Aujourd'hui, 25 millions d'Américaines en âge de procréer vivent dans des États qui interdisent l'avortement ou qui en limitent la possibilité. Ce qui se passe là-bas donne le frisson. Des femmes affluent pour se faire avorter dans les États qui le permettent encore. D'autres n'en ont pas les moyens. Un climat de peur s'est instauré. Des femmes et des médecins risquent la prison. Martine Biron veut à tout prix éviter un tel scénario chez nous. C'est possible en théorie. Ne dit-on pas que lorsque les États-Unis éternuent, le Canada attrape le rhume? Les guerres culturelles qui font rage là-bas finissent trop souvent par éclater chez nous. Mais nous ne sommes pas aux États-Unis. La Cour suprême au Canada n'est peut-être pas parfaite, mais elle est beaucoup moins politisée que chez nos voisins du Sud, souligne Maître Langevin. Surtout, contrairement à ce que semble croire la ministre, il n'y a pas de vide législatif à combler en matière d'avortement. Depuis l'arrêt Morgan Taylor en 1988, l'autonomie procréative des femmes a été consacrée par trois autres décisions de la Cour suprême, rappelle la professeure. Ce droit est bien protégé au Canada. Mercredi, Martine Biron a laissé entendre qu'elle pourrait renoncer à une loi sur l'avortement. Elle a repoussé à l'automne des rencontres prévues avec des groupes féministes qui s'opposent à cette idée. Peu à peu, le projet se dégonfle. Tant mieux. Au retour des vacances, la ministre pourra concentrer ses efforts sur ce qui préoccupe réellement les groupes féministes, l'accessibilité. Il faut en faire plus pour qu'aucune Québécoise n'ait à attendre pendant des semaines ou à rouler pendant des heures avant de pouvoir interrompre sa grossesse. Il faut plus d'action et moins de marketing. C'était « Loi sur l'avortement, une fausse bonne idée », un texte d'Isabelle Haché paru le 24 juin 2023 dans La Presse.
L'intelligence artificielle va changer le travail, mais comment? Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. En 2013, des chercheurs de l'Université d'Oxford ont publié des chiffres surprenants sur l'avenir du travail. Ils estimaient que 47 % des emplois américains étaient menacés d'automatisation dans un nombre d'années non précisées, peut-être une ou deux décennies. 10 ans plus tard, le taux de chômage dans le pays a atteint un niveau historiquement bas. Le tsunami de titres sinistres de l'époque, comme « Les riches et leurs robots sont sur le point de faire disparaître la moitié des emplois dans le monde », semble tout à fait erroné. Mais les auteurs de l'étude affirment qu'ils n'avaient pas l'intention de suggérer que l'apocalypse était proche. Ils essayaient plutôt de décrire ce dont la technologie était capable. Il s'agissait de la première tentative de ce qui est devenu une expérience de pensée à long terme avec des groupes de réflexion, des groupes de recherche d'entreprise et des économistes qui publient article après article pour déterminer dans quelle mesure le travail est affecté par ou exposé à la technologie. En d'autres termes, si le coût des outils n'entrait pas en ligne de compte et que le seul objectif était d'automatiser autant que possible le travail humain, quelle quantité de travail la technologie pourrait-elle prendre en charge? À l'époque où les chercheurs d'Oxford, Carl Benedict Frey et Michael A. Osborne, menaient leur étude, IBM Watson, un système de réponse aux questions alimenté par l'intelligence artificielle, IA, venait de choquer le monde en remportant le jeu Jeopardy. Des versions d'essais de véhicules autonomes circulaient pour la première fois sur les routes. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'études suit l'essor des outils qui utilisent l'IA générative. En mars 2023, Goldman Sachs a estimé que la technologie sous-jacente aux outils d'IA populaires comme DALL-E et ChatGPT pourrait automatiser l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein. Des chercheurs d'OpenAI, le concepteur de ces outils, et de l'Université de Pennsylvanie ont constaté que 80 % de la main-d'œuvre américaine pourrait voir un effet sur au moins 10 % de ses tâches. L'incertitude est énorme, a indiqué David Autor, professeur d'économie au Massachusetts Institute of Technology, MIT, qui étudie les changements technologiques et le marché du travail depuis plus de 20 ans. Et les gens veulent apporter ces réponses. Mais que signifie exactement l'affirmation selon laquelle, par exemple, l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein pourrait être affecté par l'intelligence artificielle? Cela dépend, selon M. Autor. Affecter peut signifier améliorer, aggraver, disparu, doubler. Le fait que la technologie tende à automatiser des tâches et non des professions entières est un facteur de complication. En 2016, par exemple, le pionnier de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, a étudié une nouvelle technologie d'apprentissage profond capable de lire des images médicales. Il a conclu que si vous travaillez comme radiologue, vous êtes comme le coyote qui a déjà franchi le bord de la falaise, mais qui n'a pas encore regardé en bas. Il prévoyait 5 ans, voire 10 ans, avant que les algorithmes ne fassent mieux que les humains. Ce qu'il a probablement oublié, c'est que la lecture des images n'est qu'une des nombreuses tâches, 30 selon le gouvernement américain, des radiologues. Il s'occupe également de s'entretenir avec des professionnels de la santé et de donner des conseils. Aujourd'hui, certains professionnels du secteur s'inquiètent d'une pénurie imminente de radiologues. Et M. Hinton est depuis devenu un critique public virulent de cette même technologie qu'il a contribué à créer. Vous écoutez? L'intelligence artificielle va changer le travail. Mais comment? Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse. Frey et Osborne ont calculé leur chiffre de 47 % en partie en demandant à des experts en technologie d'évaluer la possibilité d'automatiser des professions entières comme télévendeur ou comptable. 3 ans après la publication de leur article, un groupe de chercheurs du centre ZEW pour la recherche économique européenne, établi à Mannheim, en Allemagne, a publié une étude similaire qui évaluait des tâches comme expliquer des produits ou des services et a constaté que seulement 9 % des professions dans 21 pays pouvaient être automatisées. Les gens aiment les chiffres, a affirmé Melanie Arntz, autrice principale de l'étude du ZEW. Les gens pensent toujours que le chiffre doit être solide d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un chiffre. Mais les chiffres peuvent vraiment être très trompeurs, selon Melanie Arntz. Dans certains scénarios, l'intelligence artificielle a essentiellement créé un outil et non un remplacement complet de l'emploi. Vous êtes maintenant un terrassier qui peut utiliser une excavatrice au lieu d'une pelle. ou une infirmière praticienne ayant accès à de meilleures informations pour diagnostiquer un patient. Il est possible que vous deviez facturer plus cher l'heure, car vous obtiendrez beaucoup plus de résultats. Dans d'autres cas, la technologie remplace votre travail au lieu de le compléter. Ou encore, elle transforme votre travail qui exige des compétences particulières en un travail qui n'en exige pas. Il est peu probable que cela se passe bien pour vous. Une sonnette d'alarme. Même si un emploi devient complètement automatisé, le sort des travailleurs déplacés dépendra de la manière dont les entreprises décideront d'utiliser la technologie pour de nouveaux types de travail, en particulier ceux dont nous ne pouvons pas encore imaginer, a expliqué Darren Acemoglu, professeur au MIT et auteur de « Power and Progress, Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity ». Ces choix porteront notamment sur l'automatisation complète du travail ou sur l'utilisation de la technologie pour accroître l'expertise humaine. Il a déclaré que les chiffres apparemment effrayants, prédisant le nombre d'emplois que l'IA pourrait supprimer, même si l'on ne sait pas exactement comment, étaient une sonnette d'alarme. Il pense que les gens pourraient prendre une meilleure direction, mais il n'est pas optimiste. Il ne pense pas que nous soyons sur une voie pro-humaine. Toutes les estimations concernant la quantité de travail que l'IA pourrait prendre en charge dépendent fortement des humains. Les chercheurs qui font des hypothèses sur ce que la technologie peut faire. Frey et Osborne ont invité des experts à un atelier pour évaluer la probabilité d'automatisation des professions. Les études plus récentes s'appuient sur des informations telles qu'une base de données recensant les capacités de l'IA créée par l'Electronic Frontier Foundation, un groupe à but non lucratif de défense des droits numériques. Elle s'appuie également sur des travailleurs utilisant des plateformes telles que Crowdflower, où les gens accomplissent de petites tâches en échange d'argent. Les travailleurs évaluent les tâches en fonction de facteurs qui les prédisposent à l'automatisation. Par exemple, si la tolérance à l'erreur est élevée, il s'agit d'un meilleur candidat à l'automatisation pour une technologie comme ChatGPT. Les chiffres exacts ne sont pas la question, affirment de nombreux chercheurs impliqués dans ce type d'analyse. Je décrirai notre méthodologie comme étant presque certainement erronée, mais, espérons-le, pointant dans la bonne direction, a déclaré Michael Shui, expert en intelligence artificielle chez McKinsey, qui a été l'un des auteurs d'un livre blanc de 2017 suggérant qu'environ la moitié du travail et 5 % des professions pourraient être automatisées. Ce que les données décrivent est, à certains égards, plus banal qu'on ne le pense souvent. De grands changements sont à venir et il vaut la peine d'y prêter attention. Cet article a été publié à l'origine dans The New York Times. C'était « L'intelligence artificielle va changer le travail, mais comment? » Un texte de Sarah Kessler, paru le 13 juin 2023 dans La Presse.
Kiosque Magazine.
Protéger les avocats. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 juin 2023 dans la presse. Choisir un avocat parfaitement mûr n'est pas si facile. Des chercheurs ontariens et colombiens viennent toutefois de mettre au point une technologie permettant de prédire quand un avocat sera prêt et un enduit qui retarde son mûrissement. Ce qu'il faut savoir, près d'un avocat sur cinq est gaspillé parce qu'il brunit avant d'être mangé. Des chercheurs colombiens et ontariens ont mis au point une technologie de prédiction du moment où l'avocat sera mûr pour réduire le gaspillage. Ils ont aussi testé des enrobages comestibles qui retardent le mûrissement de l'avocat. Intelligence artificielle. Dans sa Colombie natale, Angie Gomez vivait au rythme des avocats. « C'est la plus grosse exportation de mon pays, plus encore que le café », dit l'étudiante au doctorat de l'Université de Guelph, en Ontario. Dans mes études, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un gros problème. Près d'un avocat sur cinq est gaspillé, généralement rendu au pays de destination, parce que c'est un fruit fragile et que c'est difficile de savoir s'il est mûr. Sa peau est opaque et épaisse. Arrivée en Ontario, elle s'est mise au travail avec l'imagerie hyperspectrale, l'objectif de déterminer dès la cueillette quand exactement l'avocat sera mûr. Nos résultats en laboratoire sont très bons. Les anciens collègues de Mme Gomez à l'Université de Tolima, à l'ouest de Bogota, continue maintenant le travail pour mettre au point une technologie commercialisable. Notre appareil d'imagerie coûte très cher, mais je suis persuadée qu'on pourra avoir d'aussi bons résultats avec des technologies plus abordables, dit Mme Gomez. Crustacés. Dans l'étude qu'elle publie fin mai dans la revue ACS Food Science and Technology, à propos de la prévision du mûrissement des avocats par imagerie hyperspectrale, elle évalue également deux enrobages comestibles qui retardent ce mûrissement. L'un des enrobages est utilisé pour les pommes et les fraises déjà, dit Mme Gomez. L'autre est fabriqué à partir de la carapace des crustacés. Ça a été proposé dans une optique de réutilisation des rebuts alimentaires. Finalement, il n'y a pas d'avantage pour l'un ou l'autre au niveau de la performance. Dans les deux cas, le mûrissement était retardé d'un peu moins d'une semaine, survenant à 6 semaines plutôt que 5 après la cueillette. La fenêtre où l'avocat est mûr sans être brun, environ 5 jours, n'était pas plus grande avec les enrobages. Encore une fois, les agronomes de l'Université de Tolima continuent le travail sur la commercialisation de ces enrobages. Champignons. La chercheuse d'origine colombienne va maintenant se tourner, dans le cadre de son doctorat à Guelph, vers les champignons. Il y a là aussi un problème de gaspillage. La grande différence avec les avocats, c'est que les champignons sont généralement produits localement au Canada. Ils voyagent moins. Selon une étude de 2016 du Département de l'Agriculture des États-Unis, USDA, 17 % des champignons sont gaspillés à l'étape du supermarché, une proportion relativement élevée pour un légume. Les légumes les plus gaspillés sont les fèves vertes et les endives, avec plus de 40 % de pertes au niveau du supermarché. L'ABC de l'avocat. Cultivé depuis 6000 ans en Amérique centrale, l'avocat a commencé à faire l'objet d'améliorations génétiques par croisement au début de notre ère. Mais c'est un Américain, Rudolf Hess, qui a inventé l'avocat moderne dans les années 1930. Horticulteur amateur, il a croisé des avocats mexicains et guatémaltèques et breveté la variété Hass, qui représente maintenant 80 % de la production mondiale, selon une étude mexicaine publiée en 2019 dans la revue PNAS. Le Mexique produit plus du quart de la production mondiale de 8 millions de tonnes d'avocats, la Colombie étant deuxième avec un peu moins d'un million de tonnes, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, de l'ONU. Le nom de l'avocat est dérivé du terme aztèque signifiant « testicule », « ahuacatl ». En savoir plus, source, gouvernement du Québec. 1,2 million, quantité en tonnes d'aliments comestibles qui sont gaspillés au Québec. 1,9 million, quantité en tonnes de résidus alimentaires qui pourraient être valorisés au Québec. C'était « Protéger les avocats », un texte de Mathieu Perrault, paru le 12 juin 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.vcvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.